Thomas Pillardet, vous êtes à la fois le metteur en scène, mais aussi le traducteur de Tristesse et joie dans la vie des girafes de Thiago Rodriguez. Un petit mot sur le texte d'abord. Apparemment, c'est un texte assez récent de Thiago Rodriguez.
C'est un texte qui date, je crois, hein, parce que je me rappelle plus, de 2014, et que j'ai traduit, moi, en 2015, en fait. Donc, c'est un texte qu'il a écrit pour sa fille à 9 ans. Elle s'appelle aussi, il l'appelait aussi Girafe, donc c'est un texte un petit peu autobiographique, je crois. Donc, c'était en 2014, je crois, quelque chose comme ça.
Vous l'avez traduit pour le mettre en scène ?
Non, je l'ai traduit à la base. Une fiction radiophonique, c'est France Culture, la radio, qui m'avait proposé ça parce que je suis traducteur du portugais. Et donc c'était pour une fiction en fait radiophonique. Et c'est en traduisant que j'ai commencé à apprécier le texte, à l'aimer, à trouver qu'il avait des couleurs absolument passionnantes et surtout qu'il proposait un jeu d'acteur assez fort, quoi.
Lorsque vous traduisiez, vous aviez déjà les images, parce qu'on voyage beaucoup dans le spectacle, même si c'est un voyage mental, on va dire, mais il y a quand même des images qui se créent sans arrêt sur le plateau.
C'est vrai, oui, j'en avais, mais finalement, les images que j'ai maintenant faites dans le spectacle sont très 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 différentes de ce que je pensais à la base. C'est-à-dire que j'ai quand même été déplacé par les acteurs, par aussi Lisa Navarro qui a fait la scénographie du spectacle. J'avais des images, il y en a qui sont encore là, notamment l'image de la fin, j'avais toujours imaginé cette girafe qui dansait à la fin, donc ça elle y est. Mais le spectacle est très différent. Je l'ai traduit il y a 2 ans, donc forcément, moi j'ai bougé entre-temps. Et...
On a l'impression finalement qu'on est dans la tête de cet enfant qui est en train de verser dans l'adolescence, puisqu'à la fois elle a un problème concret, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus avoir le câble. En même temps, bon, il y a le deuil de la mère, il y a les souvenirs de la vie familiale qui ne sont pas forcément des souvenirs joyeux. Et puis, il y a une forme d'appréhension de ce qui va se passer plus tard.
Bah oui. C'est ça qui est assez fort, c'est ça que Thiago Rodriguez est vraiment un grand auteur, c'est qu'il arrive à se mettre dans la tête d'une enfant, en fait. Et donc, nous, je trouve qu'adultes, on met plus de temps, en fait, à se débarrasser d'une émotion, à passer du rire. On est souvent triste très longtemps, ou joyeux pendant une journée ou un mois, et puis après, on tombe en dépression dans le mois d'après. Alors que les enfants peuvent basculer d'un état très euphorique à horrible en l'espace d'une seconde, avoir envie de quelque chose, puis le laisser tout de suite. Cette espèce de gymnastique mentale de l'enfant, comme ça, cette rapidité de pensée, je trouve qu'on le ressent bien dans le spectacle. Et c'est donc passer d'un univers un petit peu sombre avec son papa à quelque chose de très joyeux avec son ours. Enfin voilà, j'aime assez ça, cette dynamique-là qu'il y a dans la pièce.
La petite fille, elle a des références bon, qui sont liées à la télévision, les séries américaines, les chaînes info. Et puis, elle a des références très savantes aussi. Il y a une évocation, des allusions à Tchekhov, par exemple. Bon, je ne suis pas certain que beaucoup d'enfants connaissent Anton Tchekhov. C'est lié au fait que la mère est écrivaine ?
Oui, oui. Ça, les mots, et d'ailleurs, on le voit aussi dans le spectacle Sopro que Thiago présente dans le festival, les mots pour Thiago Rodriguez sont très, très importants. Et donc, la littérature, les livres, l'art, c'est quelque chose qui est toujours très, très présent dans ses textes. Et sa maman était auteure, à Girafe, dans la pièce. Elle lui a appris aussi à regarder des mots dans les dictionnaires, à travailler avec des post-it, pour écrire des mots, pour travailler des définitions. C'est un apprentissage de la parole, un apprentissage du mot, un apprentissage du bon mot. Et d'ailleurs, dans la pièce, à un moment, elle fait une rencontre avec un grand écrivain de théâtre, je ne vais pas révéler qui lui dit, tu sais, la vie, c'est pas trouver des mots dans le dictionnaire, c'est trouver des synonymes. Et j'aime bien ça, pouvoir donner un avis sur une situation.
Vous avez travaillé pour France Culture. Est-ce que c'est pour cette raison que le son, les sons, la modulation des voix, le bruitage occupent une place assez importante dans le spectacle, surtout dans la première moitié?
Oui, je suis un grand fan de radio. Je pense que je suis un journaliste radio raté. Donc, j'ai fait d'ailleurs une formation il y a quelques mois de documentaire radiophonique pendant une petite semaine d'introduction. Et j'adore ça, j'adore la radio, j'adore les sons, j'adore ce que ça provoque. Et je pense que c'est en train de me gagner dans mes spectacles. C'est la première fois que je travaille avec des petites références au son comme ça. Et je pense que je vais continuer.
Par rapport aux premières questions que je vous posais, vous m'avez parlé des personnages et des acteurs aussi. Les acteurs, ils sont arrivés assez rapidement dans votre esprit ?
Oui, assez rapidement. Après, il y a eu des aléas de calendrier qui ont fait que de temps en temps, bah, on est obligé de changer, d'avoir un désir pour un autre acteur. Enfin voilà, des choses qui se passent. Mais oui, c'est assez évident en fait. Je suis très content de cette distribution. Je trouve qu'elle est cohérente. C'est une belle équipe. Et notamment Malou Faudrinier qui fait la girafe, avec qui j'ai déjà travaillé beaucoup. On s'est suivi pendant 10 ans dans une autre compagnie. Là, je suis très content de retravailler avec elle. Et je trouve qu'elle incarne une girafe très très adulte, mais en même temps très enfant, très lumineuse, très solaire. Et j'aime beaucoup.
Le spectacle, c'est une sorte de jeu de construction où il y a un côté très artisanal dans la manière dont vous faites filer le spectacle.
Bah en fait, moi, ce que je veux mettre en avant et ce que j'adore faire, c'est mettre en avant les rouages du théâtre, en fait. Qu'on voit le théâtre, qu'on voit le régisseur sur le plateau en train de manipuler, qu'on le voit installer un micro, qu'on soit pas dupe de cette magie-là, parce que, mine de rien, quand c'est suffisamment précis, même si on voit les ficelles, et en l'occurrence il y a beaucoup de ficelles dans le spectacle, ça peut quand même être magique, on peut quand même voir des choses, et ça j'adore ça au théâtre. C'est-à-dire je peux dire je suis un arbre et ne pas avoir de feuilles autour de moi, et on peut y croire. De la même manière dans le spectacle, une comédienne de 38 ans dit je suis une enfant de 9 ans, bah ok, pas de problème, on y croit. Et ça c'est tous les possibles du théâtre, et ça c'est génial.
Alors, le spectacle est inclus dans la programmation jeune public qui passe à la chapelle des pénitents blancs. Bon, en même temps, il y a des thèmes qui sont très graves, aussi bien au niveau de l'intime qu'au niveau même du politique. Et puis au niveau de la forme, il y a une longueur 1h30, enfin 1h25, 1h20, 1h25. Au niveau du langage, un pédophile, c'est un pédophile. Vous avez un ours qui jure comme un charretier. Là, effectivement, ça peut surprendre par rapport au spectacle jeune public qui est un côté quand même toujours un peu aseptisé au niveau de la forme.
Oui, bah on essaie de faire autre chose, justement. Et ça, je sais que les parents disent « Ah, mais quand même, cet ours, il est très, très impoli. » C'est d'une naïveté de la part des parents. C'est-à-dire que les enfants, quand les parents ne sont pas là, parlent comme l'ours. Ou en tout cas, ont très envie de parler comme l'ours, connaissent ces mots-là. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On essaie de s'adresser à la part mature de l'enfant que certains parents ne veulent pas voir. Les enfants de 10 ans, 11 ans, parce que le spectacle s'adresse à des enfants de 10 ans, hein, ne veulent pas avoir la part mature que les enfants ont. Donc du coup, ils se disent « Mais ah, c'est compliqué pour un enfant », mais pas du tout. Les enfants suivent très bien la pièce, ils ont des petits moments d'incompréhension, mais c'est pas grave.
Puis une dernière question, alors, parce qu'il y a des moments où c'est très mystérieux. Comment il marche le bibendum ?
Alors oui, il y a une soufflerie derrière, mais qui prend l'air à côté, qui le recycle, en fait, qui le fait gonfler. Ça a été un peu un casse-tête pendant les répétitions, ce bonhomme, mais on l'aime beaucoup.
Marc Bergman, il doit se régaler de ce type de... Parce qu'il incarne plusieurs personnages, c'est un vrai rôle de Frégoli.
Oui, ça a été difficile pour lui, parce qu'il a quand même quatre rôles très importants, très très différents. Il arrive dans la deuxième moitié, mais je pense que c'est génial pour un acteur, en fait. D'incarner dans un spectacle cinq personnages différents, je pense que c'est une grosse jubilation, quoi. Il change de costume, il change de voix, il change d'effet, donc je pense qu'il s'éclate, quoi. Je pense qu'il se marre bien.